On a jasé beaucoup de l'aspect politique des annonces de Donald Trump, de cette guerre économique avec les États-Unis, avec Marc-André Leclerc, analyste et chroniqueur politique. On va jaser plutôt du côté économique de la chose, ça donne bien, hein? Guerre commerciale, guerre économique, avec Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Vous l'entendez régulièrement à Rage Against le matin. Gabriel, bon matin.
Bon matin à vous.
Comme toujours, merci d'être là. Très apprécié ton temps ce matin, Gabriel.
Ben, c'est un plaisir partagé.
Gabriel, on connaît maintenant, puis on en a parlé avec le chroniqueur politique Marc-André Leclerc avant la pause, on connaît maintenant, l'ensemble des menaces et des tarifs de Donald Trump, qui est pas mal tout, à part 10 % sur le pétrole. Tu penses quoi, toi, économiquement, de la réplique des tarifs du Canada?
Ben, il y a deux parties. La première, là, c'est vraiment de se dire, ben, le Canada va répondre avec des tarifs de 25 % sur une panoplie de produits, là. Ça, j'ai un petit peu de difficulté, je vous avoue. Okay. Parce qu'en réalité, les politiciens canadiens sont excellents pour nous expliquer l'impact des tarifs américains pour les Américains. Autrement dit, le 25 % va faire augmenter le prix pour les Américains, hein. Le bois canadien, le bois québécois, est incontournable aux États-Unis parce qu'ils peuvent pas en produire pour eux-mêmes assez pour répondre à la demande interne. Donc, si vous habitez en Virginie ou au New Jersey, vous voulez recevoir le monde chez vous, puis pour faire un nouveau patio cet été, ben votre bois que vous allez acheter, il va vous coûter plus cher.
Ouais.
Puis la Tax Foundation a expliqué en fait que par famille américaine, ces tarifs douaniers-là qui ont été mis en place par le Donald Trump vont coûter près de 1 000 $ canadiens par ménage. C'est énorme, hein, parce que l'importation est importante. Je parle de bois, je pourrais parler également des poteaux de clôture en acier si vous voulez refaire votre clôture. Bref, il y en a plein qui sont touchés. Donc, les politiciens canadiens, que ce soit M. Trudeau ou autre, nous expliquent très bien cette dynamique-là, mais en réponse, on nous dit qu'on va faire la même chose.
Mm-hmm.
Alors là, je me dis, un instant, là, nous, on est déjà touchés, il y a des entreprises qui sont touchées, et je comprends tout à fait, il faut un Canada prospère sur le plan économique. Je pense simplement que c'est pas la bonne mesure, parce que si on va de l'avant, c'est vrai qu'il va y avoir une poussée inflationniste aux États-Unis, que ça va coûter plus cher aux familles, mais c'est vrai également au Canada. Donc, si on arrive, on met, comme essentiellement le gouvernement vient de faire, de toucher plus de 1 000 produits avec des tarifs de 25 % là, du papier de toilette, du jus d'orange, la viande, on en passe. Ben c'est sûr que quand vous allez à l'épicerie, vous allez acheter votre sac d'orange ou autre, ça va vous coûter plus cher au final. Et ça, ben, ça fait quand même partie, ou plutôt ça suit quelques années où l'inflation a été élevée. Donc, cette partie-là du plan, je vous avoue que j'irai pas de l'avant.
Ouais, je comprends très bien. Marc-André, Gabriel, je dis Marc-André parce qu'on avait Marc-André avant, Gabriel, est-ce qu'on a été trop dépendant des États-Unis en pensant qu'une décision comme ça arriverait jamais? Puis là, j'ai dit Marc-André parce que Marc-André Leclerc, notre chroniqueur politique, nous a dit faut diversifier davantage notre économie. Donc, est-ce qu'on a mal travaillé en prévention au Canada?
Oui, je pense pas qu'il y ait personne qui pouvait s'attendre nécessairement à ce qu'il y ait 25 % de tarifs en 2023 au Canada sur tous les produits exportés aux États-Unis. Là, ça, je pense que c'est assez clair. Mais c'est vrai que le Canada exporte énormément, hein. Je l'avais dit, c'est 77 % des exportations canadiennes. C'est 600 milliards de dollars aux États-Unis. C'est très, très élevé. En même temps, faut se le dire, il y a une réalité où on a un très gros marché, il y a une proximité géographique. Est-ce qu'on aurait pu baisser notre dépendance? C'est possible, hein? On n'a pas créé assez d'infrastructures énergétiques pour exporter notre gaz et notre pétrole à l'international, que ce soit sur les marchés asiatiques, dans l'Ouest canadien, ou plutôt dans l'Est pour aller sur les marchés européens. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité. Je pense quand même que la géographie et la taille du marché font en sorte que il y a une proximité qui est avantageuse pour nous, qui est un plus petit marché. Malheureusement, on y goûte fortement. Maintenant, après avoir dit que les tarifs douaniers n'étaient pas l'approche à suivre pour s'assurer d'un Canada prospère, parce que ça viendrait mettre une poussée inflationniste, il y a d'autres choses qu'on peut faire. La première des choses, on peut baisser nos taxes et impôts pour les entreprises. Parce que aujourd'hui au Canada, quand on regarde la dynamique aux États-Unis, on voit que Donald Trump va réduire les taxes potentiellement. Il l'avait fait une fois dans son premier mandat et dit qu'il va le refaire. Donc avec ça en tête, on se dit « wow, là le Canada sera plus concurrentiel, là on va avoir 25 %, les entreprises voudront plus investir ici ». Donc, ça prend un cadre fiscal attractif pour les entreprises pour s'assurer qu'on puisse répondre à la crise, puis que les gens se disent, mais moi, je veux développer un grand projet énergétique, je vais aller au Canada.
Ouais, pour venir contrebalancer là, cet effet tarif-là. Là.
Exactement. Mais ça doit s'accompagner également d'une revue du cadre réglementaire. Hier, dans le National Post, Daniel Smith a publié une lettre d'opinion, puis je trouvais pas ça bête, c'est vrai que c'est important de s'assurer d'avoir un cadre réglementaire qui est revu. Aujourd'hui, au Canada, quand vous voulez construire un barrage hydroélectrique, un oléoduc, une autoroute et d'autres infrastructures importantes, notamment les mines, ben, il faut en fait passer à travers le processus d'évaluation d'impact fédéral qui prend des années et des années et des années. Concrètement, là, le Canada, ça nous a valu un peu la réputation que c'est plus possible de construire quelque chose de gros au Canada. Et ça, il faut changer ça. Il faut changer ça pour s'assurer que la prochaine fois que ça arrive, en fait, qu'on soit pas dans une même situation, qu'on puisse exporter en Europe. Comme vous avez dit, le chroniqueur avant moi l'expliquait que c'est important de varier puis d'être un petit peu moins dépendant des États-Unis. Il faut au moins s'assurer d'avoir l'infrastructure pour se le permettre en tant que nation, de se dire, attendez un peu, là, si au sud de la frontière, on veut me coller un 25, un 30 %, même un 10 %, je vais le chipper ailleurs, mon pétrole puis mon gaz naturel. On en a besoin dans le monde de toute façon.
Hey, Gabriel, il y a un mouvement en ce moment, puis c'est un mouvement qui est là depuis, je dirais, la pandémie et les dernières années, mais là, assez intense depuis quelques jours avec les annonces de Donald Trump, le mouvement d'encourager nos producteurs locaux, nos entreprises locales. Avec ce qu'on sait maintenant, là, la taxation sur les différents produits, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est l'avenue qu'on doit prendre pour à la fois aider ceux et celles qui produisent ici, nos commerçants d'ici et notre portefeuille à nous?
Ça va être une question importante, là. Si les produits américains coûtent plus cher que les produits québécois, je pense que les Québécois, tout naturellement, risquent de tendre vers les produits québécois. Mais faut pas non plus obliger la population à acheter des produits québécois. Je pense quand même qu'il y a des valeurs qui sont fondamentales comme la liberté. Si j'ai envie d'acheter un produit marocain, peut-être, ben, ça sera ça. Peut-être américain aussi. En réalité, je pense qu'il faut laisser le choix aux gens. Faut pas trop obliger. Je pense qu'il faut surtout s'assurer que notre cadre de faire des affaires au Québec et au Canada, que ce soit fiscal ou réglementaire, soit attractif. Comme ça, on va avoir des bons produits de qualité qui vont être potentiellement moins chers. Donc, moi, la question du nationalisme économique, je prends toujours ça avec des pincettes parce que je crains parfois qu'on rentre dans une dynamique où on doit... Après ça, ça va être le gouvernement qui va nous dire, ben, écoutez, moi, j'achète juste Québec. C'est fini. C'est juste le Québec. Mais nous autres, ce qu'on va voir, c'est qu'on risque de voir des déficits plus élevés parce que si ça coûte toujours plus cher, au final, c'est le contribuable qui va faire la facture. Ouais. Donc, faut garder ça en tête. Par contre, chaque personne est libre. Hein. Si vous vous dites, moi, je suis tanné, là, je me fais niaiser avec les tarifs douaniers, je m'en vais à l'épicerie, puis je vais acheter le ketchup French au lieu du fameux ketchup Heinz. Libre à vous, c'est pas moi qui va vous retenir. Ouais.
Non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis là, Gabriel, par rapport au fait que ça doit être fait de façon naturelle et organique, pas forcée non plus, là, t'sais, d'y aller avec les choix des gens. Et si le mouvement va dans cette direction-là, mais de façon naturelle, ben ça sera une chose, là, mais pas de le forcer ou de le mettre dans la gorge des gens. Là, t'sais.
Exactement. Et il y a un autre point que je pense qui est incontournable pour bien répondre à la menace tarifaire, plutôt à la réalité tarifaire maintenant, et ça a été apporté par le gouvernement fédéral, mais ça prend beaucoup de volonté au niveau des premiers ministres, et c'est de réduire, sinon d'abolir l'ensemble des barrières interprovinciales. On le sait, au Canada, on est un pays. Malheureusement, c'est des marchés qui sont scindés. C'est difficile d'avoir des marchés intégrés, que ce soit au niveau du bois, au niveau des mines au Québec, si vous extrayez des minéraux ou si vous coupez du bois, il faut que ça soit travaillé ici. Donc, on pourrait pas envoyer ça à une scierie en Ontario directement ou une deuxième transformation pour les minéraux. Et ça vient réduire le potentiel d'échange économique. Et c'est pas la première fois qu'on dit ça, et le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeet, au Québec, qui nous représente, en fait, sur le comité des barrières de libre-échange, qui est lié à l'accord de libre-échange canadien, là, où tous les premiers ministres s'étaient dit, là, ça suffit en 2017, là, ça suffit les barrières au commerce interprovincial, on est un pays, on va s'assurer d'avoir un marché intégré. Ben, il est allé au micro de CJD la semaine dernière, et il y a deux choses qu'il faut se rappeler. La première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de discours politiques, on avance, puis on se dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je suis allé voir les chiffres, puis c'est du surplace, c'est même un recul, on a rajouté des barrières. Donc, des fois, il faut vraiment se dire, attendez un peu, là. Là, je vois très bien que c'est du discours politique. Maintenant, on veut des actions politiques pour s'assurer d'un dynamisme économique parce qu'on veut pas rentrer en récession. Puis malheureusement, ça nous pointe au bout du nez avec des gros tarifs douaniers.
Gabriel, en terminant, très rapidement, parce que je sais que ton temps est compté ce matin, vrai ou faux, le gouvernement doit investir davantage dans nos infrastructures pour passer à travers cette crise?
Oh, Faux. Je pense très clairement que le gouvernement, en fait, c'est l'approche gouvernementale, là, puis je rentrerai pas dans les théories économiques, mais dès qu'il y a une petite turbulence économique, le gouvernement et le sauveur, on met la cape de Superman, puis on commence à imprimer de l'argent. Moi, je suis pas tout à fait dans cette école-là. Je pense que de mettre un cadre réglementaire beaucoup plus intéressant, de calmer parfois le BAT qui veut tout évaluer, puis ça prend du temps, d'avoir un cadre fiscal plus intéressant, on va avoir des entreprises qui vont vouloir investir. Puis c'est un peu ce que je dis quand je dis de s'assurer que les grands projets énergétiques puissent aller de l'avant. Mais concrètement, là, c'est pas au gouvernement de mettre de l'argent, de dépenser notre argent. Ça va être des entreprises qui vont se dire « Hey, le Canada, là, c'est intéressant pas à peu près d'aller investir là. » Ben, ils vont venir investir parce que le cadre réglementaire doit être changé puis ça va être plus attractif. Puis on le sait, au Québec, on a besoin de beaucoup de personnes en construction, par exemple. Le gouvernement l'a dit, s'il y a des emplois en manufacture qui sont trop perdus, ben ils vont pouvoir aller en construction. La seule chose, c'est pourquoi dépenser pour la formation quand on pourrait changer le cadre réglementaire puis réduire les certifications obligatoires comme les poseurs de plancher, les peintres. Pourquoi il faut aller faire 400, 600, 500 heures à l'école quand on pourrait apprendre sur le tas comme on fait en Ontario parfois ou dans les autres provinces? Je pense qu'il y a une réflexion à avoir avant de dépenser encore des milliards de dollars au Québec.
Et Gabriel, je pense que tu viens d'ouvrir la porte pour une future discussion qu'on va avoir à l'émission, ça c'est sûr et certain. Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal, que vous entendez régulièrement à Rage Against le matin et qu'on apprécie. Gabriel, merci pour ton temps ce matin. Comme Jeff a dit, là, ton temps est compté ce matin, c'est toujours apprécié.
Ben, merci beaucoup. Là.
À bientôt.
Salut Gabriel.
À bientôt.
Gabriel Giguère, cette heure-là, wow! Ouais. Marc-André Leclerc, du côté politique de la chose, les décisions politiques, les conséquences politiques, et de l'autre côté de la médaille, même de l'autre côté, qui fait partie du full package là, de ce qui s'est passé depuis samedi, là, le côté économique là, de cette guerre économique avec les États-Unis.
Très intéressant, Gabriel, parce que ça rejoint les points de Marc-André. Quand on parle de politique et d'économie, ça s'entremêle tout le temps sur la fameuse réglementation et le fait qu'on a de la difficulté à faire des affaires entre provinces. Ouais. Hey, on est le même grand pays, on peut-tu s'aider, s'il vous plaît?
Commençons par là, tu sais.
C'est ça. Puis j'ai adoré son début lorsqu'il a dit « Les gouvernements du Canada et du Québec sont très bons pour expliquer ce que les tarifs vont faire aux Américains, mais ça va faire la même affaire à nous autres aussi. » Fait que, tu sais, c'est correct. Puis je pense qu'au niveau politique, on n'avait pas le choix de répliquer. Mais là, après ça, qu'est-ce qu'on fait pour le consommateur moyen qui a déjà pas d'argent dans ses poches?
Après, l'analyse politique... un peu plus tôt dans l'heure, et l'analyste économique, Gabriel Giguère, à qui on vient juste de parler, on va justement ajouter une autre couche à cette situation-là, cette discussion-là. Dans l'heure de 8, autour de 8h20, on jase avec Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois. Bon lundi matin, tout le monde. Merci de commencer la semaine avec la gang de Boulevard Sandra.